Eh bien, nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder un nouveau sujet extrêmement important, la sauvegarde de la nature, actuellement, dans le présent et surtout pour l'avenir.
Les parcs nationaux, invention américaine.
Qu'est-ce que c'est qu'un parc national ? C'est une région où on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'espèces végétales et animales, et on s'est dit qu'on allait les préserver, qu'on n'allait plus avoir d'activités qui détruiraient la nature telle qu'elle s'y présente, non seulement qui la détruirait, mais qui empêcherait qu'elle prolifère, qu'elle s'étende aussi bien vers les animaux que les plantes.
Certes, en France, au XIXe siècle, les peintres de Barbizon en appelaient au respect de la forêt de Fontainebleau, tandis que les Suisses créaient leur première réserve naturelle dans le canton de Neuchâtel, mais rien de comparable avec le grand mouvement qui va donner naissance dès les années 1860-1870 à Yosemite, puis Yellowstone, et qui fait qu'aujourd'hui, 59 parcs nationaux ont fini par fédérer quelque 2% du territoire des États-Unis. Le peuple américain a tôt pris conscience qu'il marchait dans une nature qui lui était propre. Un moment au départ, il s'est agi de la dompter, d'assécher les marais, de redresser les fleuves, mais très vite est venu à certains la conscience du caractère exceptionnel des paysages qu'il découvrait. Cet immense pays neuf n'avait peut-être pas de monument historique, mais il se construisait au milieu d'antiquités naturelles d'une beauté inouïe. La vallée et les futaies de Sequoia de Yosemite en Californie deviennent un parc en pleine guerre de sécession. C'est dire que l'idée de protection s'est vite imposée comme si elle pouvait sceller l'harmonie d'une nation tirée à hue et à dia. Mais bientôt, un débat naît. La protection au nom d'une conservation raisonnée qui fait toute leur part aux besoins humains, ou la protection au nom d'une préservation stricte d'une supposée pureté originelle. C'est vers 1900 que cette polémique trouve sa première forme autour de l'aménagement d'un barrage dans la vallée du Yosemite. Le mouvement écologique dans le monde se construira autour de ce divorce originel, dans une dualité qu'on pourrait dire constitutive et qui apparaît pour la première fois aux États-Unis.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
François Brunet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'art et de littérature des États-Unis à l'université Paris Diderot et membre de l'Institut universitaire de France, et vous travaillez sur la culture visuelle.
Oui.
Sur le voyage par l'image.
Sur le voyage par l'image, la culture par l'image, l'histoire par l'image aussi.
Ça va pas être facile à la radio. Je recommande, pour ceux qui trouveront insuffisante cette émission, par ma faute, pas par la vôtre, L'Amérique des images, un superbe volume que vous avez dirigé avec toute une équipe à vos côtés aux éditions Azan et qui nous ramène aux sources. Alors je disais, les fleuves qu'il faut redresser, la nature qu'il faut dompter. Quand La démocratie en Amérique est publiée par Tocqueville en France à la fin des années 1830, il en est encore là. Mais, à la même époque, aux États-Unis, autre description du paysage. Par exemple, chez un peintre, on va faire dans la culture visuelle, c'est un monsieur qui a un atelier à New York, mais qui n'aime pas les ravages de la hache dans les forêts. Il s'appelle Thomas Cole et il fait un essai sur le décor naturel américain que vous avez d'ailleurs publié en français.
Oui, et on peut, j'ajoute tout de suite qu'on peut voir ce qui est ses plus belles toiles en ce moment au Louvre dans le cadre de l'exposition Brève histoire de l'avenir, puisqu'il y a son cycle sur le destin de l'Empire en 5 tableaux qui montrent justement comment la nature se transforme et est colonisée et civilisée pour aboutir à la ruine et à un retour à l'état sauvage initial. C'est un peintre très original à l'époque. Il n'y a pas à cette époque-là d'école de paysage encore. On considère le premier peintre de paysage. Et immédiatement, pratiquement, en même temps qu'il peint les paysages, surtout de l'Est, il écrit pour parler de la nécessaire, ce qu'il appelle le culte, la culture du paysage, la culture de ce qu'il appelle une oasis à préserver pour l'avenir. Et d'emblée, cette culture-là, elle est posée dans une opposition, effectivement, à ce qu'il appelle les ravages de la hache. Et on considère souvent qu'il est l'un des précurseurs principaux aux États-Unis. Il est anglais d'origine, hein, mais il est quand même américanisé et très américain. De l'idée du parc national.
Mais dans une opposition aussi, d'une certaine manière, à l'Europe, parce que les paysages américains sont si exceptionnels, un philosophe dit ça à la même époque, le fameux Emerson, qu'il y a chez les Américains la conscience qui commence à naître d'une certaine supériorité qui tient à cette exceptionnalité des paysages.
Absolument. Je suis en train de lire une histoire culturelle des États-Unis qui vient de paraître de mon collègue Jean Kempf, et il cite trois piliers de la culture américaine qui sont la nature, l'exceptionnalisme et la liberté. Et nature et exceptionnalisme, ça va absolument ensemble, c'est-à-dire qu'effectivement très tôt, alors chez une certaine intelligentsia, une minorité culturelle, mais qui est assez agissante et assez qui parle beaucoup, on a cette idée qu'effectivement une culture américaine, une identité nationale va pouvoir se créer contre l'Europe, sur la nature. Et d'ailleurs, la peinture de paysage, la photographie de paysage ont un statut culturel, une grandeur aux États-Unis qu'elles n'ont pas ailleurs.
On n'est pas encore vraiment à la photographie au temps d'un autre pionnier, entre guillemets, que je voulais citer, et qui est très présent maintenant dans la culture européenne, c'est évidemment Thoreau.
Oui.
Thoreau qui vit toujours en lisière.
Oui.
Et d'une vie ascétique qui le mène souvent. On connaît son fameux livre « Walden en forêt ».
Je gagnais les bois parce que je voulais vivre suivant mûre réflexion, n'affronter que les actes essentiels de la vie, et voir si je ne pourrais apprendre ce qu'elle avait à enseigner, non pas quand je viendrais à mourir, découvrir que je n'avais pas vécu. Je ne voulais pas vivre ce qui n'était pas la vie. La vie est si chère. Ce qu'il me fallait, c'était vivre abondamment, sucer toute la moelle de la vie, vivre assez résolument, assez en spartiate, pour mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie. De la simplicité. Et si au lieu de fabriquer des traverses et de forger des rails, et de se consacrer jour et nuit au travail, nous employions notre temps à battre sur l'enclume nos existences pour les rendre meilleures. Si la locomotive siffle, qu'elle siffle à en perdre la voix pour sa peine. Si la cloche sonne, pourquoi courir?
Il est si présent, Thoreau, que Guillaume Gallienne le lit sur l'antenne de France Inter. Tout de même, en faire un ancêtre d'une pensée écologique, peut-être, mais... C'est quand même une pensée morale que la sienne, là.
Oui, c'est un versant important de la pensée écologique américaine. C'est pas le même que celui de Cole, et même peut-être que celui d'Emerson. Ça n'est pas une pensée visuelle en particulier, c'est plus qu'une pensée, c'est une expérience. Sucer la moelle, ça dit bien le rapport extrêmement intime, extrêmement proche, extrêmement... Thoreau, quelqu'un qui s'intéresse aux minuscules, qui s'intéresse aux détails des plantes, des fougères, à la vie des petits animaux. Ça n'est pas un amateur nécessairement de paysages grandioses ou de phénomènes gigantesques. Et c'est par ailleurs quelqu'un qui pense beaucoup la nature comme habitat, qui pense beaucoup la relation de l'homme américain dans une société qui est déjà industrialisante à la nature comme une source de régénération morale. Et ça va être l'un des fils conducteurs de l'écologie, de l'éthique environnementale jusqu'à aujourd'hui.
Enfin, Michelin en France disait « Et si on faisait un jour l'histoire du brin d'herbe ?» Oui, mais vous insistez sur la différence qu'il y a entre l'expérience américaine et la nôtre. Et ça tient aussi à l'épopée des pionniers. Là, les pionniers, pas entre guillemets, les pionniers au sens classique du mot, dont vous avez suivi tout le travail d'exploration, qui se traduit dans la photographie. Et l'expérience pionnière, c'est aussi une expérience de destruction.
C'est d'abord une expérience de destruction et de construction, de destruction-construction, qui s'étend pendant des siècles, et plus spécialement pendant une période d'environ 50 à 80 ans décisive au 19e siècle, effectivement, et qui est une épopée extrêmement, par moments, extrêmement violente, non seulement contre la nature, mais aussi contre les premiers habitants de ces territoires, les Indiens, et qui va contribuer aussi à précipiter, plutôt souvent par réaction, la conscience écologique.
Oui, parce que les chantiers des pionniers, ce sont des lieux où tout est mis en désordre.
Oui, il faut l'un des exemples qui sont souvent cités, c'est la situation de la Californie, des contreforts des Sierras au moment de la ruée vers l'or et après la ruée vers l'or, où il y a une véritable dévastation de ces contreforts, de leur forêt, et de la terre elle-même qui est lavée à grande eau pour en extraire le minerai. Et donc on a des photographies là aussi qui montrent alors des phénomènes de destruction de la nature.
Oui, mais alors c'est au bord de ces chantiers et de ces chantier tenu par des chercheurs d'or, et c'est en plein cœur de la guerre de sécession en 1864 qu'en Californie est érigé par le Congrès, qui a le temps d'en parler. un parc qui est pas encore tout à fait un parc national comme on l'entendrait aujourd'hui, qui s'appelle Yosemite. Il a vraiment le temps d'en parler, le Congrès?
Le Congrès des États-Unis en parle très peu. Mais il en a parlé un peu parce qu'il fallait un acte fédéral, une loi fédérale pour effectivement faire cette concession à l'État de Californie. Ça n'est pas un parc national, c'est défini comme un terrain de plaisir public pour l'État de Californie. L'origine de l'initiative est effectivement en Californie. Alors là encore, au sein d'un petit groupe d'acteurs, en particulier un acteur important qui est un architecte paysagiste qui s'appelle Frédéric Olmsted, qui est par ailleurs connu au même moment exactement comme l'architecte de Central Park. Et il y a un lien très fort entre les premiers parcs nationaux et les parcs urbains, et la notion de nature dans la ville. L'idée que les parcs nationaux, c'est un peu des banlieues de nature aussi dans les villes. Pour San Francisco, c'est le cas de Yosemite. Et donc une conscience un peu, on pourrait dire, un peu élitiste par rapport à la sauvagerie,
oui, entre guillemets, des pionniers. Oui, parce que c'est une nature esthétisée.
Voilà.
Et on veut pas qu'autour d'elle se produisent les mêmes phénomènes vulgaires qu'autour des chutes du Niagara à l'est.
Il y a une dimension, voilà. Alors bon, les phénomènes vulgaires de Niagara, c'est vrai que Niagara était déjà un site touristique depuis déjà un certain temps, site de lune de miel. La notion de lune de miel s'est inventée au chute du Niagara dans les années 1830. C'était un lieu de villégiature pour les New-Yorkais. Et donc il y avait déjà des infrastructures touristiques. Et donc à Yosemite, on veut beaucoup plus préserver.
Yosemite 1864 et quelques années plus tard, un parc qui va avoir, lui, le premier, le statut de parc national.
Les terrasses de Mammoth Hot Springs sont l'une des beautés de Yellowstone. Mais elles ont bien failli disparaître.
Quand les premiers responsables du parc sont arrivés ici, ils ont trouvé des terres sauvages occupées par des braconniers et des colons qui campaient dans la nature.
À la fin du 19e siècle, des camelots venaient dans la région prélever des pierres pour les revendre comme curiosité sur la côte est. Le site se dégradait, et pour mettre fin au pillage, des scientifiques finirent par convaincre le Congrès américain de créer une zone naturelle inviolable. Le 1er mars 1872, Yellowstone devient le premier parc national de l'histoire.
Avec un espace beaucoup plus grand que Yosemite.
Oui, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus vaste.
On est où exactement ?
On est dans le Wyoming, près de la ville de Jackson Hole aujourd'hui. Donc on est dans les Rocheuses, vraiment, dans une région volcanique particulièrement spectaculaire, effectivement, du point de vue de ses formations naturelles, geysers, terrasses, ruisselantes, etc.
Vous vouliez avec commenter ce que disait l'extrait de Des racines et des ailes qu'on
vient d'entendre ? Oui, c'est tout à fait... Enfin, ce qui est novateur et important et qui a donné lieu à discussion quand même si ça n'a pas non plus été une discussion considérable au Congrès, c'est l'idée de retirer, au nom de l'État fédéral, des terres publiques à la colonisation. Et ceci 10 ans après le Homestead Act, qui est la grande loi qui institue la colonisation libre des terres dans l'Ouest. Donc c'est l'idée qu'on enlève un grand territoire quand même en surface pour en faire une réserve naturelle, mais vraiment une réserve de paysage, une réserve qui est conçue à l'époque comme un espace visuel, comme un espace et qui va devenir un espace pour le tourisme.
Donc espace récréatif, espace
récréatif, espace de plaisir, espace de promenade, espace beaucoup de d'expériences visuelles, et c'est pour ça que effectivement le rôle de la photographie est important. Les photographies sont censées, c'est un peu une légende, mais en même temps ça part de vérité, avoir contribué à la décision.
Oui, mais vous allez entendre maintenant une chanson de Woody Guthrie par la musique. On peut aussi figurer le pays, ce pays est ton pays, ce pays est mon pays, de la Californie à l'île de New York, de la forêt de Redwood, aux eaux du Gulf Stream.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Du café, Monsieur le Président. Merci. C'est l'ours dont on a parlé?
C'est celui qui, à l'aube, a attaqué un de nos corrales. Il sait que les hommes dorment encore ou sont à peine éveillés. Il paraît qu'il a même blessé sérieusement quelques Indiens. Il a tué plusieurs chevaux.
Avez-vous l'intention d'en faire un tapis pour la Maison Blanche, Monsieur le Président?
Bon, jamais de la vie. Non, j'ai l'intention de le faire empailler et de l'exposer au musée Smithsonian.
Est-ce vous-même qui l'avez tué, Monsieur le Président?
Oui, à mon grand regret.
Pourquoi à votre grand regret, Monsieur le Président?
Parce que c'est un bel animal et qu'il était dans sa vallée. Cette vallée lui appartenait et c'est nous qui sommes les intrus ici.
Avec François Brunet, l'auteur d'Une grande Amérique des images, chez Azan, nous parlons des parcs nationaux, de la politique environnementale aux États-Unis d'Amérique, dont voici un président du début du XXe siècle qui s'exprime dans une conférence de presse improvisée. Extrait du film Le Lion et le Vent de John Milius. Ce président, c'est
Theodore Roosevelt.
Alors, le premier Roosevelt.
Oui, le premier Roosevelt, oui.
Et c'est un homme qui a la réputation d'être sensible aux enjeux naturels que
oui.
vous décrivez, à tel point qu'il dit « je n'aurais pas dû être sur le chemin de l'ours ».
Et c'est quelqu'un qui est sensible aux enjeux de nature, c'est quelqu'un qui en même temps incarne complètement, et on le voit très bien dans cet extrait-là, l'ambiguïté ou la dualité de la politique de la nature telle que précisément elle se cristallise à ce moment-là précisément juste avant la Première Guerre mondiale.
Alors la dualité de la politique de la nature aux États-Unis. Alors on va si vous voulez mettre en scène deux compagnons de route. L'un s'appelle John Muir, l'autre s'appelle Gifford Pinchot. On est à l'extrême fin du 19e, ils sont copains au début. Ils ont fait des voyages d'études de l'association forestière. Ils marchent dans les bois et ils discutent de la manière dont il faut conserver la forêt.
Voilà. Alors oui, il faut alors juste un mot de plus pour Theodore Roosevelt, c'est que c'est aussi c'est ce qui incarne bien la dualité, c'est que c'est aussi quelqu'un qui popularise le mythe du cow-boy. Hein, c'est un rough rider, c'est quelqu'un qui aime bien poser en habitat de cow-boy et en même temps qui va faire de la protection de la nature.
Alors c'est pas le cas de notre ami Pinchot.
Non,
commençons
c'est pas le cas.
Pinchot
et encore moins de Muir. Donc Pinchot est quelqu'un qui a effectivement ils ont un parcours commun au départ, mais Pinchot a pris assez tôt le chemin de l'administrateur, de l'ingénieur, de celui qui va être un aménageur, en fait. Et il s'identifie pendant toute cette période à ce qu'on va appeler, à partir de ce moment-là, la politique de conservation. C'est-à-dire, il faut expliciter ce terme parce qu'il est ambigu, une économie maîtrisée. Une utilisation maîtrisée, sage, respectueuse des ressources naturelles.
Parce que voilà un homme qui a conscience des ravages de la hache dans les forêts, qui a appris la foresterie en Europe, et l'Europe a connu des coupes avec les défrichements et l'utilisation du bois pour la métallurgie tout à fait irrationnelle. Il a conscience de la finitude des ressources.
Tout à fait, il a conscience de la finitude des ressources, et d'ailleurs, comme vous le soulignez, il a appris en Europe une chose qui existe en Europe depuis un certain temps, qui est le développement de la forêt, la culture de la forêt, la sylviculture, et cette notion a été importée aux États-Unis avant Pinchot, dès les années 1870-80, mais il va lui donner une nouvelle expansion avec la création d'une institution qui précède le National Park Service, qui est le National Forest Service, le Service National des Forêts, l'Office National des Forêts, qui a pour but précisément l'exploitation et la conservation, c'est-à-dire le renouvellement de la forêt.
Et qui maintient jusqu'à un certain équilibre.
Voilà, jusqu'à aujourd'hui, une institution parallèle, non pas concurrente, mais parallèle au Park Service.
Mais la forêt doit satisfaire aussi les besoins humains. Alors voilà. Ça, c'est la première position, conservation. Et alors l'autre, avec qui il chemine un moment et avec qui il va se fâcher, John Muir.
Alors John Muir, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus, même s'il a encore une fois une origine commune, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus un ermite, un solitaire, un anarchiste, un taurovien, un véritable héritier de taureau, un radical, quelqu'un qui écrit énormément, beaucoup plus que Pinchot, enfin en tout cas dans un style beaucoup plus littéraire, qui écrit des textes élégiaques, de la poésie, de longues descriptions des forêts, et qui pratique et qui prône la fusion, la fusion, l'immersion dans la nature, comme taureau dans le petit, mais aussi dans le grand, et qui alors lui défend une vision beaucoup plus exhaustive, beaucoup plus totalitaire, on pourrait dire, en un sens, de la nature, au sens où il ne faut pas y toucher,
c'est la préservation.
La préservation.
C'est ce qu'on appelle la préservation. Une sorte de pureté originelle.
Oui. Hein? Garder une...
Alors, ils vont s'affronter à l'occasion d'un projet d'investissement dans le parc de Yosemite, barrage de la vallée de Hetch Hetchy. Et ce barrage, dit le maire de San Francisco, va donner de l'eau à l'agglomération. Et puis les partisans du barrage expliquent, on connaît le discours, hein. Eh ben, on va pouvoir faire de superbes parties de bateaux sur l'eau. Dialogue entre les deux.
Ce sera un grand miracle politique de tenter d'améliorer la beauté du plus beau parc de montagne en enterrant ses azalées et ses roses sauvages à 100 mètres de profondeur. Une fois que ce sera fait, on nous promet une route creusée sur le versant nord où les amoureux de la nature pourront s'asseoir sur des tabourets rustiques comme des grenouilles sur une bûche pour admirer cette imposture de barrage qui est en fait la tombe de Hetch Hetchy.
L'actuelle vallée de Hetch Hetchy n'est qu'un marécage rempli de moustiques, c'est pas très touristique. Une fois créé, le lac ne remplira pas la totalité de la vallée et ne gâchera pas la vue.
C'est désolant de voir ce pauvre pinchot perdre la tête après tant de travaux encourageants. Il est passé de la conservation saine à la destruction, porté par une ambition folle et désordonnée.
Il a du talent de littérateur, Muir. Les grenouilles, oui. Comme les grenouilles sur une bûche.
Féroce, oui.
Et il dit aussi, alors, évidemment, les hommes se considèrent comme des sauterelles à sabots. Et ils dévastent tout, comme les sauterelles.
Exactement. Alors, l'histoire de Hetch Hetchy est un point de focalisation. C'est pas... Pourtant, enfin, aujourd'hui, ça n'est pas un très haut lieu. C'est une vallée, une petite vallée au nord de la vallée de Yosemite, qui d'ailleurs a été sacrifiée d'autant plus facilement à l'époque qu'on a considéré qu'elle ressemblait tellement à la vallée de Yosemite que c'était pas la peine d'en garder un deuxième exemplaire. En gros, c'était un peu ça. Effectivement, Muir en fait pendant une période longue de plus de 10 ans, hein, vraiment le cœur de son combat. Et le combat, derrière ce combat entre Muir et Pinchot sur cette vallée, il y a en fait un enjeu énorme qui aujourd'hui nous éclate à la figure, enfin éclate à la figure des États-Unis et de l'Ouest des États-Unis, qui est l'enjeu de l'eau. Dans tout l'Ouest, le Sud-Ouest, on savait depuis les années 1870 et 80, les explorations de Powell et d'autres, que toute cette région est aride, voire désertique dans beaucoup d'endroits, et que construire des villes de la taille de Los Angeles, de Las Vegas ou de Phoenix en Arizona dans cet environnement-là était déraisonnable. On le savait, ça a été écrit en détail de façon très très argumentée. On le savait, mais l'impératif de la colonisation est resté le plus fort. Et aujourd'hui, comme les discussions sur la Californie, les gazons, faut-il avoir des gazons ou pas encore aujourd'hui en Californie, c'est des discussions qu'on a qui existait déjà il y a plus d'un siècle.
Vous voulez dire que les gens qui défendent leur piscine ont la même argumentation que...
C'est les grenouilles.
Il s'agissait de défendre l'idée du barrage. le président Roosevelt, le premier, va évidemment prendre plutôt position pour la conservation que pour la préservation. Après, il faudrait raconter la multiplication et la diversification des parcs. Il y en a même qui ont un contenu historique et oui. Qui ne recèlent pas que des monuments naturels.
Voilà, alors c'est effectivement on disait tout à l'heure que Theodore Roosevelt incarnait les deux polarités. Il faut effectivement pas oublier que c'est quand même dans le sillage de Theodore Roosevelt que se crée en 1916 une nouvelle institution fédérale, qui est donc le National Park Service, l'Office National des Parcs, première administration fédérale qui regroupe l'ensemble des parcs. À l'époque, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont essentiellement en Californie, à Yellowstone. Et par la suite, il va s'en créer beaucoup, et non seulement dans donc ce qu'on appelle aujourd'hui les parcs nationaux, on disait 59 aujourd'hui je crois, mais à côté de ces 59 parcs nationaux, parcs naturels essentiellement, un très grand nombre d'autres zones réservées, des réserves naturelles beaucoup plus vastes, mais aussi beaucoup beaucoup de monuments historiques nationaux, de parcs historiques nationaux, qui vont progressivement englober tout un ensemble de lieux de mémoire. Et aujourd'hui le parc,
le National Park,
voilà, notamment les champs de bataille de la guerre de sécession, mais aussi beaucoup d'autres lieux liés à la révolution américaine et bien d'autres.
Le QG de Washington.
Mais aussi des lieux de l'esclavage et de la lutte contre l'esclavage, plus tard pour l'abolition et les droits civiques. Tout ça pour souligner que le Park Service aujourd'hui est une institution au moins autant dédiée à la mémoire et à la nature elle-même comme mémoire, que à la nature dans un sens.
Il y a tant de parcs que ça fait aussi beaucoup d'emplois, comme le remarquait le second président Roosevelt, qui a beaucoup embauché dans ce domaine. Je voudrais qu'on en vienne maintenant, si vous le voulez bien, aux années 60-70, où la fracture qu'on a connue au temps du barrage de Hetch Hetchy rejoue. Et voici un extrait d'un film mythique, le chef-d'œuvre d'Antonioni, qui s'appelle Zabriskie Point. Donc c'est un étudiant révolutionnaire, Marc, il a des ennuis sur son campus, il file sur un petit avion, et voilà qu'il voit, dans la vallée de la mort, du haut de son avion, une petite voiture conduite par Daria, qui est tout à fait charmante, alors flirt, avion-voiture, l'avion se pose devant la voiture dans un lieu géologique extraordinaire, Zabriskie Point, ainsi décrit par une pancarte que Daria lit.
Cette région a été occupée par des lacs qui furent desséchés il y a 5 ou 10 millions d'années. Leurs lits ont été soulevés par des poussées souterraines et ils ont subi l'érosion du vent et de l'eau. Ils contiennent borate et gypse. Je me demande comment font ces plantes pour vivre ici. Elles sont tellement belles. Tu veux qu'on descende jusqu'au lit de la rivière?
On se retrouve en bas!
Attends! Tu veux fumer? Cherchons un peu d'ombre, viens. On est bien ici. C'est vachement calme. Par moments, j'ai envie de crier!
T'as une bonne occasion de le faire! Y'a personne ici! C'est un désert, y'a rien!
Mais c'est quelqu'un!
Qui? Un fantôme? Celui d'un pionnier?
Alors c'est là qu'on voit la supériorité d'un spécialiste de la culture visuelle comme vous, François Brunet. Ils vont s'unir, Daria et Marc, mais alors il faudrait décrire ce qui se passe. Il y a 5-10 couples nus qui surgissent du sable et qui font l'amour dans une sorte de moment primordial retrouvé.
Oui, oui. Alors ça, c'est bon, effectivement, les années 60, et en même temps, avec donc toutes ces thématiques de l'amour libre, on n'est pas très loin de du Summer of Love, de toutes ces choses-là. Et en même temps, on retrouve précisément des thèmes qu'on a déjà vus, notamment dans la chanson de Woody Guthrie tout à l'heure. D'abord, l'idée que la terre et la nature nous appartiennent, qu'elles ont été faites pour nous. Ce qui est une idée très difficile à imaginer en France, je crois. Ça rejoint cette notion d'exceptionnalisme, d'idée qu'il y a une destinée particulière, qui s'incarne particulièrement dans la nature, même la nature déserte de Death Valley, qui est l'endroit le plus inhospitalier qu'on peut imaginer. Et dans cet endroit particulièrement inhospitalier, ce désert, qui pour les puritains du 7e siècle était le lieu terrible de la rencontre avec Dieu, au contraire, dans le contexte des années 60, et qu'on retrouve aussi dans un film comme Easy Rider, par exemple, un lieu de transgression, un lieu de liberté absolue, y compris de liberté sexuelle, d'amour primordial et de franchissement, de destruction de toutes les barrières.
Mais de régénération.
Et aussi. De régénération. Alors c'est quelque chose qu'on retrouverait aussi bien, même si Thoreau et Muir sont des auteurs entre multiples guillemets beaucoup plus puritains. En même temps, il y a des tas de métaphores chez eux qui sont des métaphores organiques, sexuelles, comme chez Whitman aussi, sur l'union avec la terre et l'idée que nous sortons de la terre et que nous y retournons. Il y a aussi la dimension de la mort là-dedans qui est présente, et donc
le danger de la mort est tel qu'il faut, j'en reviens à notre dualité constitutive préservation, conservation, dans l'esprit de ces penseurs dominants ou de ces cinéastes dominants des années 60-70, choisir la préservation.
Oui, il faut choisir la préservation, il faut choisir la préservation, et ça, c'est, ça, il y a un repère, c'est Rachel Carson, le printemps, le silence, le printemps du silence, le livre de 1964, où elle dénonce le DDT et qui va précipiter une nouvelle vague beaucoup plus populaire de conscience écologique, et voilà.
Merci à vous, François Brunet. On reprendra, c'était juste la première émission d'une série, ces questions d'histoire environnementale très prochainement. L'émission a été préparée par Céline Loriou avec à la technique Enzo Labori.